Dans 1 Corinthiens 15, à la fin du chapitre, nous arrivons à la fin de ce grand livre, de cette grande lettre de l'apôtre Paul. Il y a encore beaucoup de choses merveilleuses à découvrir, même dans les quelques versets qui restent. J'ai une petite question à vous poser. Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité? Quel est l'homme le plus vieux de la Bible? Quelqu'un le sait là-bas? En anglais, c'est Mathusalem. En français, on dit Mathusalem. D'accord? C'est vrai qu'on dit c'est vieux comme Mathusalem. Il a vécu 969 ans. Ça fait un sacré bail. Pensez qu'une personne qui vivrait aussi longtemps aurait pu naître en 1032 et être encore vivante aujourd'hui. C'est un peu le scénario du film Les Visiteurs. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on pense qu'à l'époque, avant le déluge, il y avait l'eau qui est tombée sur la Terre, protégeait les hommes des radiations cosmiques. Il y avait comme une couche d'eau qui nous protégeait autour de la Terre, qui faisait une espèce de serre de la Terre. Pour dire qu'il y a une explication scientifique à la longévité des premiers hommes. Donc Mathusalem, c'est l'homme le plus vieux de la Bible. Mais j'ai une autre question à vous poser. Cet homme, nous dit la Bible, est mort avant son père. Alors moi, je vous demande, comment est-ce que c'est possible que l'homme le plus vieux du monde soit mort avant son père? La bonne réponse, son père n'est jamais mort. Regardons la Genèse 5. La Genèse 5, verset 21. Enoch, c'est page 5, c'est tout au début de la Bible. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie, fut de 365 ans. Verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu l'enleva.
So it says, when Enoch had lived 65 years, he began to father Methuselah. And after he became father Methuselah, Enoch walked with God 300 years and had other sons and daughters. Altogether, Enoch lived 365 years. Enoch walked with God, and he was no more, because God took him away.
Ce chapitre 5 de la Genèse, j'ai du mal à... Je vais faire une petite parenthèse parce que c'est quelque chose d'assez formidable. Quand on lit dans la Bible les généalogies, on s'ennuie souvent. Parce qu'on ne connaît pas souvent la langue originale, l'hébreu. Parce qu'ici, nous avons la liste des descendants d'Adam jusqu'à Noé. Il y a Adam 7, verset 3, verset 6, Enoch, ainsi de suite. Et si on lit la généalogie avec les noms hébreux, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalaleel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé. C'est difficile à prononcer. Mais si on regarde ce que ces noms veulent dire, alors là, il y a des choses formidables qui apparaissent. Le mot d'Adam, premier homme. En fait, le mot Adam veut dire homme. Son fils, Seth, qui est né après la mort d'Abel, tué par Caïn. Ça veut dire réservé, ou comme on donne un rendez-vous. Enoch, ça veut dire mortel, verset 6.
Enoch means mortal.
Verset 9, Kenan, ça veut dire chagrin.
And, verse 9, Kenan means, sadness.
Verset 12, Mahalaleel. Vous reconnaissez le mot Hel qui veut dire Dieu en hébreu, Elohim, les dieux. Mahalaleel, ça veut dire Dieu béni. Yéred, ça veut dire viendra d'en haut, verset
15.
Enoch, ça veut dire enseignant.
Enoch means teacher, instructor.
Et puis Mathusalem, c'est un mot qui vient de deux racines. La première racine, en hébreu, les mots sont formés à partir de racines. Et son nom signifie, la première racine, c'est mut, qui veut dire sa mort. Et shalok, qui veut dire amènera. Donc ça veut dire sa mort amènera. Et puis le nom de Noé, bien connu pour son arche, ça veut dire repos, consolation. Et en fait, lorsqu'on lit, on met ces mots bout à bout en français, ça nous donne à l'homme est réservé un mortel chagrin.
Sorrow.
Mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant.
But, the blessed God will come from above, the teacher,
teaching. Que sa mort amènera à ceux qui désespèrent. Oui, j'ai oublié le mot de l'émec qui veut dire ceux qui désespèrent. Que sa mort amènera à ceux qui désespèrent. Repos, consolation.
Rest and consolation.
C'est la première annonce de l'évangile dans la Bible. À l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos, consolation. To man is appointed mortal sorrow, but the blessed God will come from above, teaching that his death will bring to those who mourn rest and consolation. Enoch, en fait, c'était le premier prophète. Jude, dans le verset 14 de sa lettre, le définit comme un prophète. Apparemment, Dieu avait révélé à Enoch qu'il y avait un jugement à venir sur la terre. Mais il avait révélé à Enoch qu'il allait retenir son jugement tant que son fils serait vivant.
While
Parce que cet enfant, il l'appelait sa mort amènera point de suspension. Et donc, les gens savaient qu'il allait se passer quelque chose au jour de la mort de Mathusalem. On peut imaginer que chaque fois qu'il avait un rhume, ou qu'il ne venait pas à l'école, qu'il n'était pas à l'école du dimanche, tout le monde devait être très inquiet. On a vu que dans la prophétie globale, il est question de sa mort amenant la venue de Christ. Mais dans le cadre de l'époque, qu'est-ce qu'allait amener sa mort, la mort de Mathusalem ? En fait, quand on fait le calcul, on réalise que sa mort allait amener le déluge. Là, je parle un peu comme Mark Knudson, qui veut vous montrer que la Bible, c'est pas un vieux recueil d'histoires, de fables. C'est un message intégré, donné par Dieu pour que nous le lisions et nous le comprenions. Genèse 5, 25 nous dit que Lémec naît quand Mathusalem a 187 ans. Donc, au verset 28, il est dit que Noé naît quand Lémec a 182 ans. Puis au chapitre suivant, on voit que le déluge arrive, chapitre 6, verset 11, le déluge est arrivé dans l'année où Noé avait 600 ans. Donc quand on ajoute, pour compter les années entre la naissance de Mathusalem et le déluge, on ajoute 187, 182 et 600. On arrive à 969 ans. Et verset 27, qu'est-il dit ? La durée totale de sa vie fut de 969 ans. Sa mort a amené le déluge. Mais revenons à Enoch, après cette digression. Il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Apparemment, il avait vécu 65 ans sans connaître Dieu. Et puis, à la naissance de son fils, Mathusalem, qui était tout jeune à l'époque, tout petit, il est dit que quelque chose s'est passé. Il a rencontré le Seigneur. Ça n'est pas dit, mais on sait qu'il est dit par contre qu'après ça, il va marcher 300 ans avec le Seigneur. Souvent, la naissance d'un enfant peut faire ça. Dans mon cas, c'est la naissance de mon premier fils qui a commencé à me faire poser des questions. D'un seul coup, j'avais la génération d'après moi dans mes mains. Et on commence à se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Où vais-je? Et apparemment, Enoch, il y a eu 65 ans d'existence, de vie, de subsistance. Et puis après, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. La vie est devenue passionnante. La vie est devenue excitante, abondante. Jésus nous a dit que le voleur ne venait que pour voler, tuer et détruire. Mais il a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Peut-être que votre vie est monotone, vide.
Maybe your life is monotonous.
Faite de joie, de déception.
Maybe you have joys and disappointment.
Vous ne voyez pas trop bien où tout ça va vous mener.
Can't really see where everything's leading you.
Shakespeare disait, être ou ne pas être, telle est la question.
Shakespeare said, to be or not to be, that is the question.
On pourrait, en le paraphrasant et en corrigeant un peu, on pourrait dire exister ou vivre, telle est la question.
To exist or to live, that is the question.
Être dans un mode de subsistance,
should we just subsist?
Ou vraiment vivre,
or should we really live?
Et la réponse,
and of course the answer is,
c'est Dieu.
God.
Sans Dieu, vous n'allez qu'exister.
Without God, you will only exist.
Vous allez subsister.
You will subsist.
Vous aurez des espoirs, des déceptions.
Have hope and you'll have disappointment.
Mais si vous voulez que votre vie prenne un sens, alors il faut marcher avec lui. D'abord reconnaître qu'il existe, qu'il est mort pour vos péchés et qu'il a des choses merveilleuses à vous proposer. Il marcha avec Dieu, puis pof, il ne fut plus, il a disparu, Enoch. J'aime bien l'histoire de la petite fille qui avait étudié ça à l'école du dimanche. Et puis qui l'expliquait à ses parents en disant, chaque jour, Enoch marchait avec Dieu. Il se promenait avec lui. Il allait toujours un peu plus loin. Puis un jour, il s'est retrouvé tellement loin de chez lui que Dieu lui a dit, ben, viens chez moi, c'est plus près. C'est mignon, mais ça devrait être aussi la description de notre vie. Faire que notre relation avec Dieu, elle augmente à un tel point que aller avec lui, c'est plus facile. Paul aujourd'hui va nous dire que ce que Enoch a vécu, les chrétiens qui ne sont pas morts au temps du retour de Christ va arriver aussi pour eux. Paul nous a expliqué dans les versets précédents la nécessité de la mort pour changer de corps. On a dit que pour aller sous l'eau, il faut une combinaison de plongée. Si on va aller dans l'espace, il faut une combinaison spatiale. Et Paul nous a bien expliqué que il faut, si on veut être dans le spirituel, dans les cieux, il va falloir changer notre corps naturel contre un corps spirituel, un corps glorieux. Et ce qui est formidable, c'est que ce corps glorieux, ce n'est pas une imagination. C'est une réalité qui a été vue par ceux qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Le corps naturel, littéralement, c'est le corps psychique. Psychique, ça vient du mot psuché, qui veut dire l'âme. C'est le domaine que la psychologie étudie. C'est le domaine de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de notre volonté. Et puis le corps spirituel, littéralement, c'est un corps pneumatique. Du mot pneuma, qui veut dire air, d'où les chambres à air sont des pneumatiques, des pneus. Mais qui veut dire aussi le vent ou l'esprit. Et Paul va nous révéler un secret. On va lire les versets 50 à 58. 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici que je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite : la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Paul veut nous révéler un mystère. La question qui était derrière ce mystère, c'est les gens se demandaient ce qui allait se passer pour ceux qui seraient encore en vie au moment de la résurrection. Paul en plus nous parle de ce moment. Il nous révèle ce moment. Le chapitre de la Genèse que nous avons lu ne nous dit rien sur ce qui est arrivé à Enoch. Il était là, puis on ne l'a plus vu. On ne sait pas si d'un seul coup il s'est retrouvé avec une combinaison spatiale spirituelle. Mais ici, Paul va nous expliquer qu'il va y avoir aussi une transformation pour ceux qui sont encore vivants au moment de la résurrection. Verset 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Jésus avait dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On ne peut pas espérer être avec Dieu sans être né de nouveau. Souvent, les gens pensent que, si on demande, peut-être vous le ferez dans la rue cet après-midi en parlant avec les gens, ils pensent peut-être qu'en menant une vie de son mieux, ben, ça sera suffisant et Dieu nous acceptera dans son paradis. Mais là, il est clair que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Trop souvent, on pense que le destin du corps et le destin de l'âme, de l'esprit, sont séparés. En fait, on va voir que les deux sont partenaires. Le corps des chrétiens, même s'ils sont vivants au moment où il y a la résurrection, va devoir subir une transformation. Vous avez déjà entendu parler de la métamorphose. Il y a la métamorphose des têtards en grenouilles. Et encore peut-être plus parlant comme exemple, la métamorphose des chenilles en papillons. La chenille, elle vit dans un univers à deux dimensions. Elle est toujours posée sur quelque chose. Elle peut peut-être regarder, avec ses petits yeux, on ne sait jamais où ils sont.
Tiny little eyes, we never know where they are.
Mais elle peut pas s'envoler.
But of course they can't fly.
Pour vraiment pouvoir apprécier un univers à trois dimensions, il va falloir qu'elle subisse une transformation radicale.
This insect has to undergo radical transformation.
C'est ce qu'on appelle la métamorphose.
This is called metamorphosis.
C'est un changement de forme à travers.
It means that you change
La chenille va disparaître,
so it's going to disappear,
dans un cocon,
grows into a cocoon,
et puis elle va en ressortir sous un aspect nouveau, plein de beauté, peut-être avec des couleurs splendides. Et là, elle va pouvoir se déplacer dans un univers à trois dimensions. Quelque part, notre corps, lui aussi, est assez bien adapté pour vivre sur la Terre. Nous pouvons avoir une idée des choses spirituelles, la Bible nous parle, nous avons une certaine sensibilité une fois que nous sommes nés de nouveau.
Once we're born again, we do have a certain idea of spiritual life.
Mais pour apprécier vraiment le monde spirituel,
to really appreciate the spiritual world,
un univers qui va avoir plus que 3 ou 4 dimensions,
a universe will probably have more than 3 dimensions,
alors il va falloir aussi passer par cette métamorphose.
We'll also have to become something different, metamorphosized.
Je vous vois.
So, Pierre sees.
En fait, qu'est-ce que je vois ?
What does he see ?
Je vois l'enveloppe.
He sees the outer body.
L'enveloppe qui vous permet d'exprimer votre moi réel.
This outer body that allows you to show your
true
mind
self.
Okay. Yourself.
Mais ce n'est que votre enveloppe.
That is just your outer envelope.
La science nous dit que tous les 7 ans, toutes vos cellules ont été remplacées. Donc je connais Aline depuis plus de 7 ans. Elle est complètement nouvelle. Alors c'est vrai que dans notre corps, on a parlé de l'ADN, qui est en fait le code génétique de mon corps physique. Et en fait, ces cellules qui sont remplacées, elles se mettent un peu au même endroit, donc on garde toujours un peu le même aspect. Ou presque. On a parlé de la tente qui se décrépit progressivement. Mais si vous avez déjà eu l'occasion de voir un être cher décédé, quand on voit la dépouille mortelle, moi j'ai eu malheureusement plusieurs fois l'occasion de le faire, on a l'impression qu'on voit la coquille vide. Le vrai moi est ailleurs. Le vrai moi, c'est votre esprit, c'est mon esprit. C'est intéressant de penser un peu aux erreurs d'intuition que nous faisons. Quand on parle d'infini, de temps infini, on pense que ça commence à moins l'infini, que ça va à plus l'infini. Parce que quand on étudie les maths, on représente le temps sur une ligne. Et on pense que Dieu, il est vraiment de là-bas jusqu'à là-bas. En fait, Dieu est en dehors du temps. À votre avis, est-ce qu'une disquette d'ordinateur pèse plus lourd quand elle est remplie de programmes que quand il n'y a pas de programme?
So a CD-ROM, is empty or when it's filled with information?
La réponse, c'est que ça pèse exactement la même chose. Le vrai moi de la disquette, c'est le programme. On dit que trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés, n'est-ce pas? Mais là encore, c'est parce qu'on a des préconceptions. On parle en géométrie plane. Si on va sur une sphère, comme la Terre, on peut avoir des triangles avec trois côtés qui font 90 degrés. Vous pouvez vérifier sur une orange, vous partez de l'équateur, vous montez jusqu'au pôle et vous repartez à 90 degrés et vous verrez que vous avez 3 fois 90 degrés. Einstein a montré que l'espace était courbe. Que la masse était liée au temps. Et en fait, le fait que le moi réel n'a pas de masse, d'après Einstein, ça montre qu'il est, il est en dehors. Pour avoir les révélations. Dans la Bible, un mystère, c'est pas quelque chose d'absolument incompréhensible. Un mystère, c'était quelque chose qui n'était une vérité qui était inconnue jusqu'à ce qu'elle soit révélée. Il dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous nous serons changés. Littéralement, c'est nous ne dormirons pas tous. Lorsque Jésus parlait de Lazare, il disait qu'il s'était endormi. Et qu'il devait partir pour le réveiller. Et les disciples lui dirent, mais s'il est endormi, c'est pas grave, il sera sauvé. Alors Jésus avait dû leur expliquer, non, je veux dire que Lazare est mort. En grec, dormir, ça se dit koimao. Koimao. Et il y a un mot qui veut dire le lieu où l'on dort, ça s'appelle le koimeterion. C'est un endroit de repos pour les voyageurs. Je vous ai donné le grec pour que vous reconnaissiez le mot cimetière. Le cimetière, c'est là où l'on dort. Et quand vos parents, vos amis vous disent qu'ils sont à l'hôtel Sofitel à Lyon ou sont arrêtés au Novotel, vous ne faites pas de soucis. Le cimetière, ça ne doit pas être un endroit de peur. Cette expression... nous ne dormirons pas tous, mais tous nous serons changés. J'ai vu des fois ça dans des nurseries à l'église. Comme une devise. Peut-être que nous ne dormirons pas, disent les bébés, mais nous serons tous changés. Non, c'est... Paul affirme que la métamorphose, elle va avoir lieu... pour ceux qui seront encore vivants au moment de la résurrection. Il est impossible que notre corps puisse participer à la vie céleste et qu'il passe par la mort ou non, il va falloir qu'il soit transformé. On va recevoir un modèle beaucoup plus perfectionné. J'ai commencé avec un PC en 1983 ou 82, avec DOS, 640K de mémoire, un écran noir et blanc,
black and white.
Un grand disque dur de 20 mégabits, mégaoctets. Et maintenant, on a des appareils qui sont sans commune mesure, qui pour surfer sur Internet. De la même façon, si on veut pouvoir être branché dans les cieux, il va falloir que Dieu nous donne un modèle beaucoup plus perfectionné. Alors cette transformation, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Ça va être très rapide. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Elle sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Un instant, c'est le mot atome, qui veut dire quelque chose qui ne peut pas être divisé. C'est tellement court qu'on n'arrive pas à le diviser. Un clin d'œil. Alors, il y en a qui disent un clin d'œil, c'est quand on fait comme ça. Mais en fait, c'est le mouvement des paupières sur nos yeux. Il paraît que ça prend un cinquantième de seconde. Et qu'on doit faire ça en principe 25 fois par minute. Quelqu'un s'est amusé à faire le calcul en disant si vous voulez un voyage de 10 heures en voiture. À 120 km/h, en fermant les yeux un cinquantième de seconde 25 fois par minute, vous allez parcourir 10 km les yeux fermés. Je ne vous conseille pas de le faire d'affilée. Mais tout ça pour dire que ça va être en un instant. Et il y aura un ordre bien précis. Regardons 1 Thessaloniciens 4. Paul nous donne des explications. À partir du verset 15, page 232. 1 Thessaloniciens 4, verset 15. Voici en effet ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Le Seigneur s'était révélé à Paul. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire ceux qui seront vivants quand Christ va retourner ne vont pas être transformés avant ceux qui sont endormis, les morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Cette trompette, c'est pas la septième trompette de l'Apocalypse. Parce que cette trompette, c'est l'annonce d'une victoire. C'est la trompette de Dieu. Certains pensent que l'Église va devoir passer par cette période de difficulté qu'on appelle la Grande Tribulation. Et ils disent que justement, la trompette ici, c'est la septième trompette qui annonce des catastrophes. Mais il n'y a aucune raison de mélanger les deux trompettes. L'une, c'est la trompette de Dieu, ici, alors que l'autre, c'est la trompette du septième ange. Avant que l'Église ne soit enlevée, il faudra que le corruptible enfile l'incorruptible. Encore une fois, comme on ne peut pas mélanger l'huile et l'eau, on ne peut pas mélanger le céleste et le terrestre.
Again, oil, water,
Nous devons être changés. Et puis, verset 54, c'est la victoire sur la mort. Il cite des prophéties du prophète Ésaïe. Du prophète Osée aussi. Et c'est vrai que c'est merveilleux de pouvoir dire la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La Bible explique que Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la communion avec lui. En lui laissant le choix de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Dieu voulait avoir une relation d'amour avec nous. Il ne peut pas nous forcer à l'aimer pour que ce soit de l'amour réel. Donc il nous a toujours laissé ce libre arbitre. Et Adam et Ève ont choisi de rejeter Dieu. Et la Bible explique qu'à partir de ce moment-là, la mort est entrée dans la race humaine. Le salaire du péché, c'est la mort. Et depuis ce moment-là, ils ne sont pas morts instantanément, mais leur corps a commencé à vieillir. Leur esprit, lui, est mort. Et c'est pour ça que nous, lorsque nous naissons, nous n'avons pas d'esprit. C'est pour ça que nous devons naître spirituellement, naître nés d'en haut. Je vois quelques regards un peu puzzled, un peu. Je vous invite à prendre la cassette de la semaine dernière où on a parlé davantage de ça. Mais depuis Adam et Ève, la mort est l'ennemi implacable pour nous. Malgré les progrès de la médecine, de la génétique, l'hygiène de vie, le confort, nous sommes toujours démunis devant cet adversaire. Et elle ne fait pas de détails. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux, elle finit par avoir tout le monde. Quelqu'un dit que le taux de mortalité, c'était toujours de 100%. Et là, on est tout content parce qu'on arrive à vivre jusqu'à 120 ans. On est loin des 969 ans de Mathusalem. Mais une fois que nous serons ressuscités, alors jamais plus nous n'aurons à pleurer un être cher. Et dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, l'Apocalypse nous dit que Dieu essuiera toutes larmes de nos yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus deuil, ni cri, ni douleur. Et donc, Paul parle de l'aiguillon de la mort. Il dit que c'est le péché. Est-ce que vous avez plus peur des abeilles que des mouches? Moi, je suis beaucoup plus nerveux quand il y a une abeille qui est sur mon assiette que quand il y a une mouche. Je peux chasser la mouche sans peur. Mais l'abeille, je me méfie. Parce qu'elle a un petit dard. Un petit aiguillon. Qui peut me piquer et me faire très mal. Et Paul nous dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il y a une très belle illustration concernant ceci, c'est l'histoire d'un papa qui était avec sa petite fille en train de pique-niquer. Et cette petite fille était terrorisée par ce gros frelon. Et son papa a volontairement attrapé le frelon. Il s'est fait piquer, il a relâché le frelon et il a dit à la petite fille, tu n'as plus à avoir peur de ce frelon. Mais ça, c'est exactement l'image de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Il est devenu péché pour enlever le dard de la mort. La puissance du péché, c'est la loi. Qu'est-ce que ça veut dire cela ? En fait, c'est la loi qui va révéler le péché. Paul disait dans Romains 7:7 que la loi est parfaite, elle est bonne. Il disait, que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certes non. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « Tu ne convoiteras pas ». Autrement dit, souvent, c'est le signal, l'information de la loi qui va nous révéler le péché dans nos cœurs. Souvent, je dis, on peut conduire à 120 km/h en traversant un village. C'est mal. Parce qu'on prend des risques inutiles, on peut tuer des enfants. Mais tant qu'il n'y a pas un signe qui dit interdit de dépasser le 50, alors je peux dire qu'en fait je peux y aller et foncer aussi vite que je veux. La loi, elle est là pour nous révéler notre péché. Les 10 commandements n'ont jamais été donnés pour que nous les respections pour mériter le paradis. Ils nous ont été donnés pour nous convaincre que nous n'y arrivons pas seuls. C'est ce que Paul nous explique dans Romains. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. L'expression, le temps de qui nous donne, c'est un présent progressif. C'est-à-dire qu'il nous a donné, il continue de nous donner et il va continuer de le faire. Et la mort, c'est plus une terrible punition que nous devons redouter si nous sommes chrétiens. Au contraire, c'est un instrument de libération par rapport au péché dans notre vie. C'est une transformation. C'est un peu comme le petit bébé à l'intérieur du ventre de sa maman. Il doit subir une épreuve. C'est dur pour la maman, mais ça ne doit pas être drôle pour l'enfant. Lui qui dormait bien tranquillement, quand il voulait, d'un seul coup, il y a une pression intense, de la lumière, des cris. des paroles des docteurs, des personnes autour de la maman. Mais pour avoir accès à la nouvelle dimension de vie, il doit passer par là. Et nous aussi, nous devons passer par la mort. Et si nous sommes vivants quand Christ revient, alors nous serons aussi transformés. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que Paul, c'était un grand théologien. Il avait un grand intellect. Mais c'était un gars vachement pratique. Vous vous souvenez qu'il soutenait son ministère en fabriquant des tentes. Il n'était pas perdu dans sa tour d'ivoire. Il vivait vraiment. Et toujours sa théologie, les vérités doctrinales, elles débouchent sur du concret. Peut-être qu'il y en a qui se disent, oui, c'est vrai, on va être ressuscité, on va être transformé encore glorieux. Je sais ce que je vais faire. Lundi, j'arrête, je vais pas au travail. Je vais partir sur le mont Chauve. Et attendre la résurrection des morts. J'ai pas de soucis à me faire. Et peut-être qu'on va, après un enseignement pareil, on se dit maintenant ce qui compte c'est de connaître le jour et l'heure. Mais Jésus nous a dit que personne ne connaît cette heure et ni ce jour, sauf le Père. Et donc son conseil, il est très pratique. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Au vu de tout ce qui nous attend, alors mettons-nous au travail. Il faut être ferme, inébranlable, toujours progresser dans l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre du Seigneur? On sait que Christ est venu pour racheter ce qui était perdu. Et donc, il nous demande de participer à ce travail de rédemption. En priant. En témoignant. En enseignant la parole de Dieu à des enfants, à des adultes. En aidant les uns les autres, au nom de Dieu. Et lorsqu'il est question de progresser, ça veut dire qu'il ne faut pas seulement se contenter du statu quo. Il faut marcher de progrès en progrès. Il faut que ça aille en augmentant. Il faut être entièrement consacré. Toujours un peu plus pour l'œuvre du Seigneur. Souvent on se dit « Oh, mais je fais des choses pour le Seigneur. » Moi-même, je suis pasteur. Mais est-ce qu'à chaque instant, j'essaye de faire l'œuvre du Seigneur? Ou est-ce qu'il y a des moments où je dis « Bon, ben, c'est pas dimanche matin, je peux me relâcher. » Ou est-ce que je passe beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas de valeur éternelle? J'ai passé trop de temps la semaine dernière avec des problèmes d'ordinateur. On peut faire du travail administratif. On peut faire des choses par habitude. Mais est-ce que si on vient devant le Seigneur, est-ce qu'on peut lui dire « Oui, ça c'est pour toi que je le fais » parce que j'ai essayé de toucher des âmes.
Alors,
ça ne veut pas dire nécessairement aller sur la promenade des Anglais comme on va le faire tous cet après-midi. Mais ça peut être prier, ça peut être aimer ses enfants, son mari, sa femme, être un témoignage de ce que Dieu veut que nos vies soient. Un bon test, c'est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est pour ça que Dieu ne nous dit pas l'heure. Sinon, on se relaxerait avant.
Hein.
Il veut que chaque jour, et nous voulons que chaque jour compte pour l'éternité. Et quelque part aussi, le fait de travailler abondamment pour le Seigneur, c'est pas ce qui va vous sauver, mais c'est ce qui va vous prouver que votre foi est une foi qui vous sauve. Donc Paul veut nous encourager. Et ce qui est formidable, c'est qu'il a été un exemple parfait de cet engagement. On sait combien il a souffert, mais toujours il avait le souci des églises, le souci des gens autour de lui. Plus loin dans Galates 6:9, il dira: « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. » 6:9. Do not grow weary in doing good, because if you keep doing it, you'll reap a harvest at the proper time if you don't relax. C'est une traduction approximative.
Oui. Let us not become weary of doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up.
Ne pas abandonner.
Never abandon.
Et souvent on se dit: oh, mais j'ai essayé de témoigner, je prie pour des amis, il n'y a rien qui se passe. Une bonne chose, c'est que le Seigneur ne nous paye pas sur la commission. Il nous paye aux heures travaillées, d'une certaine façon. Il nous demande d'être. C'est pas à nous de convertir les gens, mais notre travail, c'est leur parler du Seigneur. Et donc Paul veut expliquer qu'en fait la mort, ça ne doit plus être quelque chose que l'on craint avec terreur. C'est simplement une transformation nécessaire. Et qu'au vu de cette réalité, cette vie que nous passons ici, qui est très rapide, nous devons la mettre au service du Seigneur. Et à ce moment-là, nous serons comme Enoch. Un beau jour, nous serons aussi près de la maison de Dieu, qui dira: ben, viens avec moi à la maison. Mais je veux vous mettre en garde, si vous n'avez pas encore reçu le Christ dans votre cœur, la mort reste un ennemi redoutable pour vous. Dieu veut tourner les tables. C'est la mort qui va être supprimée, jetée dans l'étang de feu. Mais si vous n'appartenez pas à Christ, vous aussi vous suivrez le diable dans cet étang de feu. Un écrivain, Alan Redpath, a dit que la mort, ça pouvait être comme une porte qui nous emmenait vers Dieu. Mais ça pouvait être aussi une porte de prison qui s'ouvre pour l'exécution du prisonnier. Mais si vous vous humiliez devant lui, vous reconnaissez que votre vie n'est pas ce qu'elle devrait être devant lui, vous reconnaissez que vous êtes, vous vivez dans le péché et que vous avez besoin d'être pardonné, que vous croyez qu'il est mort pour vous sur vos, pour vos péchés sur la croix, alors il dit que vous êtes né de nouveau. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain vous serez parfait. Il va falloir la mort pour nous libérer du péché, de la présence du péché. Mais si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous devez venir à lui. Il a tout fait pour vous. Il frappe à la porte de votre cœur et il veut vous présenter toutes ces choses, que toutes ces choses soient à vous aussi. Si vous laissez Jésus contrôler votre vie, alors il va vous mener à la victoire finale. Amen. Prions. Seigneur, nous avons du mal à contempler ces sommets spirituels. D'imaginer que la mort est enfin vaincue. Seigneur, tu l'as vaincu, toi, à la croix. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu les exhortes, tu les implores de venir à toi. Mais Seigneur, pour ceux qui te connaissent déjà, alors tu leur dis de se mettre vraiment au travail. De réfléchir à la portée de ce qu'ils font. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour l'éternité? Seigneur, guide-nous dans nos réflexions. Utilise ta parole pour changer nos vies. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je fais peut-être des activités religieuses, mais pas des activités qui viennent à toi, Seigneur, des activités selon toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser détourner par des choses qui mangent notre temps. Donne-nous les vraies priorités, Seigneur. Aide-nous à racheter le temps. Et si vous avez été touché par cette invitation que